Bonjour, bonjour. Les rescapés du week-end de Pentecôte. Soyez bénis. Alors, bonne arrivée dans cette semaine de descendance culte de Pentecôte. Et j'aimerais commencer, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, que j'avais partagé la parole, mais j'aime tellement cette citation, alors je voudrais commencer par cette citation de quelqu'un qui s'appelle Saint Jean Chrysostome, je ne sais plus si je l'avais donné, mais enfin bref, je vous la redonne. Seulement, Saint Jean Chrysostome, pardon, 4e siècle après Jésus-Christ, c'était il y a quelques années quand même. Seulement un fou pourrait croire qu'il est possible de changer le monde avec un simple message d'amour et de paix. Donc, nous pouvons conclure que Jésus était un fou. Et seulement des fous peuvent accepter de suivre un tel homme. Nous pouvons donc conclure que nous tous sommes fous. Donc, admettons joyeusement... J'aime bien cette dernière phrase. Donc, admettons joyeusement que nous sommes fous et nous pourrons joyeusement nous atteler à changer le monde. Pas mal, hein ? Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Bouche d'Or, on l'appelait. Il avait un don certain, une éloquence certaine. Oui, et par rapport à ce que disait Marie, c'est vrai qu'on a cette folie... Cette folie qui est associée à notre évangile, la folie de croire que cette bonne nouvelle est au milieu de nous, qu'il y a un roi qui a une autorité supérieure à tous les autres rois de la terre. La folie de croire qu'il y a un royaume dont les lois, dont les frontières, dont l'influence dépassent la somme de toutes les influences, de tous les pouvoirs des nations de la terre. La folie de croire que la gloire de ce royaume dépasse la gloire de toutes les nations. C'est ça, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du règne du roi rendu possible à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Alors, dimanche de Pâques célèbre le retour de Jésus, et puis dimanche de Pentecôte célèbre l'arrivée de l'Esprit. C'était l'esprit que Jésus, justement, en partant, il avait promis à ses disciples. Et moi, j'aimerais bien commencer par cette période qui sépare la résurrection de Jésus d'avec l'arrivée de l'Esprit. Et dans Actes, on nous en parle, Actes 1, 3 à 8, après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla. Leur parla de quoi ? Et il leur parla du règne de Dieu. Il leur a parlé du royaume de Dieu. Entre le temps où il est ressuscité et le temps où l'Esprit vient, il les entretient sur le royaume de Dieu, le règne du roi, le règne de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Il veut les préparer. L'Esprit n'est pas encore là, mais déjà, il leur parle de comment le règne de Dieu va se manifester pendant 40 jours. C'est dommage qu'il n'y ait pas trop de choses qui soient écrites sur cette période-là, mais après, heureusement, on a les épîtres qui nous font comprendre énormément de choses. Et or, un jour, verset 4, qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. Ça aussi, c'est mystérieux. Pourquoi ? Et en fait, Jésus n'est plus là. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu les préparatifs que Jésus a fait avec ses disciples avant de partir, c'était du sérieux. Jean 16, il n'arrête pas de dire, alors attention, je vais partir, mais il ne faudra pas paniquer, parce que je vais envoyer quelqu'un. Et parce que faut quand même revenir un petit peu au contexte, hein, c'était la panique. Les gars qui avaient suivi 3 ans Jésus, le sauveur, que tout le monde disait que c'était lui qui allait sauver tout le monde, et puis il est crucifié sur une croix, et puis les gens qui avaient suivi pendant 3 ans ce gars-là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce qu'on a tout laissé, nous. Et puis, ils ont la panique. Pardon. Et donc, Et pourquoi il leur demande d'attendre? En fait, parce que justement, il sait que s'ils n'ont pas l'esprit, ça va être violent. Et ça risque de ne pas être joli à voir. Parce qu'il savait que ce n'était pas la peine de commencer cette grande mission qu'il leur donne tant que l'Esprit Saint ne serait pas là. Et on continue, verset 4. Donc, mais d'y attendre, d'attendre à Jérusalem, que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Vous voyez, les gars, ils se disent, ouais, ça y est, il va revenir, Messie, roi, cheval blanc, c'est moi le libérateur, you. Eh ben non. Après, il était arrivé sur un âne déjà, c'était mal barré. Et puis, ensuite, il n'était pas venu pour prendre le pouvoir politique, mais plutôt changer ce qui est à la source de tous les maux du monde, le cœur de l'homme. Seigneur, est-ce à ce moment-là? Eh ben, Jésus leur répond, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, sa dynamique. Hein, c'est là que le mot puissance, c'est dans le sens de dynamique. Hein. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Et effectivement, on verra après que la différence entre avant la Pentecôte et après, la plus grande différence, c'est qu'avant, ils avaient les jetons, pardon, ils avaient peur, et après, ils sont libres. Libres d'annoncer. Une grande, un miracle. Hein. Entre un Pierre qui est complètement perclus de remords et qui a trahi Jésus, le gars qui pour qui il avait dit « Je donnerai ma vie, je suis prêt à aller jusqu'au bout. » Et puis, avant que le coq ne chante trois fois, il avait déjà renié trois fois. Alors, c'était quand même assez violent. Alors, la Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. C'est fêter ce que Jésus avait promis en s'en allant. Et il a parlé du royaume de Dieu, il leur a expliqué le règne de Dieu avant de partir et de leur envoyer entre l'ascension, hein, entre le Pâques et l'ascension, au moment où les disciples voient Jésus partir, et ben il leur parle du règne. Ensuite, il leur demande de ne pas quitter Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Remettons un peu tout ça dans le contexte. Il faut comprendre que Dieu, depuis le commencement, dans sa volonté de racheter l'homme depuis la chute, hein, depuis le péché originel, l'homme, hein, vous savez, il a voulu vivre pour lui-même, en oubliant son Créateur, et en étant sa propre finalité. Hein, il met en doute l'amour de Dieu, souvenez-vous. Hein, est-ce que tu es sûr qu'on ne doit pas manger de ce fruit? Et puis l'ennemi vient vers eux, le serpent, en leur disant « Non, mais il vous a dit de ne pas en manger, c'est parce qu'il sait. » C'est quoi? Ben, il sait que si vous en mangez, vous serez comme lui. Et lui, il ne veut pas. Et finalement, mais c'est un peu ça, hein, quelque part. Vous serez comme il ne veut pas, il voudrait garder. Et Adam et Ève se font piéger par ça, comme des bleus. Ils se font piéger complètement, prisonniers par cette incrédulité de croire et de soupçonner que finalement, il y aurait une intention de nuire derrière ce commandement, alors qu'en réalité, c'est motivé toujours, et Dieu est toujours motivé par amour, parce qu'il est amour et parce qu'il est bienveillant. Il est prédisposé au bien, et eux vont finalement préférer choisir leur propre chemin. Et Dieu, donc, dans cela, va maintenant entrer dans toute une stratégie pour essayer de racheter son peuple. Là, il va passer par un homme, une famille, un peuple, avec tout au long de cette histoire. Alors, je fais un très très grand résumé de l'Ancien Testament. Avec des hauts et des bas, avec des gens qui ont fait des belles choses, des gens qui en ont fait des moins bonnes, même des terribles. Mais en tout cas, toujours est-il que Dieu a toujours pour volonté de racheter les hommes, de pouvoir les réconcilier avec lui, de pouvoir les ramener dans cet amour, dans cette communion avec lui, dans cette alliance avec lui. Et il va y avoir, dans les bas, souvent il va y avoir des moments où Dieu va envoyer un prophète. Un prophète, c'est un petit peu le gars qui fait les cours du soir, quoi. C'est un peu pour les enfants ou les jeunes. C'est-à-dire, mais non, t'as eu une mauvaise note parce que t'as pas fait ça. Maintenant, il va falloir que tu fasses ça si tu veux avoir une meilleure note. Donc le prophète, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il recontextualise la loi dans un contexte historique donné pour essayer de faire comprendre au peuple que là où il a un peu raté le coche. Donc il leur explique. Alors ça, après, ça va mieux. Et puis après, il y a un bon chef de classe, le roi David, qui arrive. Alors là, waouh. Un bon chef de classe, et puis toute la classe fonctionne bien. Et puis des fois, même, l'élève est renvoyé de la classe, Babylone, l'exil. Tu vas à l'école de Babylone, et puis après, hein, on va voir. Mais Jérémie dit à ce moment-là, mais certainement que dans leur souffrance, ils crieront à moi. C'est-à-dire que même dans cette apparente punition, la spéculation de Dieu, c'est de dire certainement, voilà, ils vont comprendre. Effectivement, ils comprennent, parce qu'avant, le directeur de l'école, il était sévère, mais au moins, il était gentil. Tandis qu'après, à Babylone, il est ni gentil et en plus il est très méchant. Donc ils ont très envie de revenir au pays promis et de retrouver le chemin de la communion avec ce bon Père créateur de toutes choses et qui est amour. Et il va y avoir le temps de la restauration. Vous connaissez ce temps, Josué, Zorobabel, Esdras, Néhémie. Où finalement, à Babylone, les gens se disent « Non, on n'avait pas compris quelque chose. Maintenant, il faut qu'on revienne et qu'on rebâtisse Jérusalem, qu'on va réinstaurer le culte à notre Dieu. Et puis, ça ne marche pas très, très, très bien. » En fait, ça marche bien par moments, mais en fait, on réalise que finalement... le projet de réconciliation, il n'arrive pas vraiment à se faire. Parce qu'à la fin, quand vous lisez Néhémie, chapitre 13, je crois que c'est le dernier chapitre de Néhémie, ou bien quand vous lisez le dernier chapitre de vos Anciens Testaments, Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament dans la Bible chrétienne, c'est Malachie, vous voyez que c'est quand même une catastrophe, quoi. C'est-à-dire Israël est toujours colonisé, c'est-à-dire ils dépendent du royaume des Mèdes et des Perses. Est-ce qu'ils ont un roi? Non, ils n'ont même pas de roi, ils ont un gouverneur. Ils n'ont plus de roi. Ils doivent payer les tributs pour permettre à l'empire des Mèdes et des Perses de prospérer. Et finalement, c'est un échec. Et c'est terrible quand on réalise ça. Et on se dit, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Parce qu'on sait que la loi est bonne, Dieu n'arrête pas de nous le répéter, mais on se rend bien compte que vraiment... les enfants de Dieu sont des indécrottables pécheurs. Ils n'arrivent pas à suivre les principes de Dieu et que ça finit toujours en catastrophe. Et finalement, on arrive à ce dernier passage énigmatique de Malachie où Dieu dit, au travers de la bouche de Malachie, « Voici, je vous envoie un Élie. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants afin que le cœur des... et le cœur des enfants vers leur père, afin que je ne vienne pas frapper le pays et me le vouer tout entier. » Et puis, boum, 400 ans de silence. On n'entend plus rien. Dieu parle plus 400 ans. C'est long. Et finalement, moi, je suis resté souvent réfléchir sur ce dernier paragraphe de Malachie, de l'Ancien Testament, en me disant, mais quelle est l'intention de Dieu là? Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Et le cœur du père qui revient vers le cœur des enfants, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Dieu est en train de proposer une nouvelle stratégie. La loi n'a pas marché, le peuple est resté dans la désobéissance, et Dieu propose maintenant quelque chose de totalement nouveau. Il va non plus fonctionner avec la loi, fais ceci, et comme ça tu auras cela, fais pas ceci, comme ça tu n'auras pas les problèmes, mais il leur dit, maintenant... Je vais venir vers les enfants. Et le cœur du Père vient vers le cœur des enfants. Et comment? En Jésus. Jésus est l'incarnation même du Papa qui revient, mais qui va plus simplement se satisfaire d'une loi pour essayer de faire comprendre aux enfants comment ils font fonctionner, mais il va dire maintenant je viens vivre en vous. Je viens installer une nouvelle dimension relationnelle, une nouvelle communion. Une nouvelle communion. Et d'ailleurs, et Jean-Baptiste est un petit peu celui qui tient la main d'un côté de Malachie, puis de l'autre de Jésus. Parce qu'il est cet Élie, Jésus nous le dira, il est cet Élie qui devait venir et qui fait que toutes les paroles, toutes les promesses de la parole sont accomplies. parce qu'il est, celui qui justement introduit Jésus. Et au moment où il baptise Jésus, une colombe, on est à la Pentecôte, une colombe vient se poser sur Jésus. Une voix retentit des cieux. C'est mon fils. La réconciliation. Et justement, alors c'est vrai que Israël était très 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 mal, et pourtant on sait que c'est pas un hasard si Jésus est arrivé à ce moment-là, parce que Galates 4 nous dit justement ceci, c'est justement que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. Et quand on regarde la situation d'Israël au moment où Jésus est arrivé, c'était la catastrophe, comme je le disais, colonisé, un système politique qui était quand même assez corrompu, avec un roi Hérode qui était assez cruel, si vous regardez un petit peu les histoires, c'était pas terrible, toute une maison, alors non seulement politique au niveau intérieur, mais en plus colonisée, parce qu'il y avait un empire, et puis qui sollicitait énormément l'économie du pays, parce qu'il y avait plein d'impôts, donc au niveau économique, c'était aussi la crise. Au niveau spirituel, manifestement, quand on lit les évangiles, on se rend compte qu'il y avait pas mal d'activités démoniaques, quand même. Il a passé pas mal de temps à chasser les démons. Ça n'allait pas. Et puis, la religion, la spiritualité était prisonnière d'une école théologique, qu'on appelait les pharisiens, qui étaient durs, qui étaient des gens qui étaient coriaces, qui étaient durs et qui vivaient uniquement dans la loi, mais en oubliant tout le projet d'amour, du Père. Mais, à ce moment-là, Jésus vient. Et Galates 4, 4 à 7 nous dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Amen. Voilà, il est venu à un temps précis pour que justement on reçoive cet esprit d'adoption, qu'on soit enfin adopté, enfin réconcilié, à nouveau retrouver une dimension d'intimité, de confiance. Et c'est vrai que c'est tellement important la confiance, parce que vous pouvez aimer quelqu'un mais ne pas avoir confiance en lui. Vous pouvez entendre, je peux vous parler, mais si par exemple vous entendez que j'ai des tas de casseroles et puis que ma vie n'est pas en règle, je peux avoir la meilleure prédication du monde, ça entre par une oreille et ça sort par l'autre. Pourquoi ? Parce que vous ne donnerez pas autorité à ce que je vais dire dans vos propres cœurs. C'est normal et vous auriez raison. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, Dieu justement se dit, on ne va pas fonctionner avec la loi mais on va installer la confiance et la communion par mon esprit, à l'intérieur de la vie de chacun. Et là, certainement, parce que la loi n'est pas abolie, certainement, et la loi ne sauve toujours pas, elle ne sauvera jamais, mais il y a des principes qui sont à prendre dans cette parole et que l'Esprit Saint va venir prendre pour les rendre vivants et agissants, ces paroles, vivantes et agissantes. Mais pour cela, et ça c'est très important, si nous voulons que l'Esprit Saint promis, cet esprit d'adoption puisse vivre pleinement et s'épanouir dans chacune de nos vies, il faut vivre dans la lumière. Vous connaissez ce chapitre de Jean, premier chapitre de Jean, cette lumière, Jésus, qui est cette lumière qui était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Une lumière. Et souvent, quand vous allez regarder le ministère de Jésus, c'est toujours comme ça, c'est la lumière. C'est la femme samaritaine, bam, il allume la lumière. Va chercher ton mari, reviens. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je dis un petit mensonge ? Qu'elle se dit dans sa tête. Puis finalement, elle dit « je n'ai pas de mari ». Puis elle lui dit « ah, t'as raison ». Boum, lumière. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cette lumière ? Est-ce que je décide de m'exposer à la lumière de Dieu ? Ou est-ce que je décide de me cacher ? Nicodème, qui arrive de nuit, parce qu'il a quand même un petit peu les jetons, c'est quand même, Jésus est très controversé, Ah, maître, Rabouni, le gars, il a tout compris. Ah, ça, c'est un gars, ouais, il a compris, on va quand même l'accueillir. Mais il vient de nuit quand même. Hein. Il vient de nuit parce qu'il ne voudrait pas trop qu'on le voie et corrompre sa réputation de membre du Sanhédrin, hein, de l'Assemblée. C'est un député, c'est un conseiller d'État. Et non, il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. En gros, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tu vas être un petit peu à poil, quoi. Et puis que tous les apparats du pouvoir et les attributs du pouvoir qui te font marcher dans tes grandes robes à franges et au milieu du peuple, ben, il va falloir retirer ça. Parce que c'est un obstacle entre toi et moi. C'est ces attributs du pouvoir, hein, que les gens ont mis sur toi. Il va falloir te dégager de ça pour pouvoir me rencontrer. La lumière qui brille, qui montre. Ce jeune homme riche, hein, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis viens, suis-moi. Et Jésus qui dit, quand il dit ça, Jésus, ah, juste avant, il dit, Jésus l'ayant aimé. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de le juger. Il n'est pas du tout en train de le juger, l'ayant aimé, parce qu'il a envie que ce jeune homme soit en communion avec lui. Mais il sait qu'il y a une idole qui s'appelle Mammon. Et il va falloir régler son compte à Mammon avant de pouvoir... Et la lumière, là, et puis on voit ce jeune homme qui va réagir, bah, pas dans le bon sens, parce qu'il va s'en aller tout triste, parce que finalement, il n'a pas envie de régler ce problème. La lumière. Vivre dans la lumière. Il faut vivre dans la lumière. Et c'est dans ce sens-là que Dieu nous demande d'avoir nos cœurs circoncis, finalement. Hein? Parce que c'est de nos cœurs que viennent les sources de la vie. C'est de là que la vie de Dieu, que le ministère de l'Esprit au travers de nos vies peut communiquer la vie au travers de nous. Mais ce cœur, il doit être découvert devant Dieu, il doit être dans la lumière, il ne doit pas se cacher. Moi, je sais que le mien, il a toujours tendance à se cacher. Hein. Chaque fois qu'il y a un problème, non, ce n'est pas ma faute d'abord. Hein. Et puis, il faut toujours que Saint-Esprit gratte un peu avant de dire, oh, bon, pardon. Mais c'est ça, laissons la lumière, le Saint-Esprit vit toujours dans la lumière et pas dans l'obscurité. Et on les connaît, les pièges de l'ennemi qui essaient de nous dire
« Tu te rends compte de ce que tu penses, si les gens savaient ça, garde-le bien caché, puis mets encore une dalle dessus. »
Et puis voilà, et puis on reste dans l'obscurité, et puis finalement on s'en sort pas. Non ! Enlève ces dalles, enlève ce qui maintient l'obscurité, vit dans la lumière, on est tous pareils. On est tous pareils, nous sommes tous capables d'être de formidables pécheurs. Et nous avons besoin de sa grâce. Amen. Et pour la recevoir, il faut vivre dans la lumière. Pour cela aussi, il faut régler le problème de la mort. Tu veux vivre selon l'esprit, mais la Bible nous dit dans Romains 12 que il va falloir que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de ta part un sacrifice, enfin quelque chose de raisonnable, quelque chose de très raisonnable, de réfléchi. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes obnubilés par notre propre survie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit j'en passe et d'autres, eh ben, on ne peut pas avoir notre intelligence renouvelée. Pourquoi ? Parce qu'on est constamment obnubilé par notre propre survie. Et la crainte de la mort, et d'ailleurs, Dieu en reparle d'ailleurs dans Hébreux, hein, il dit « Ainsi donc, puisque les enfants sont unis, Hébreux 2, 15, sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions, il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. » La peur de la mort sociale, la peur de la mort physique, la peur de la mort spirituelle peut nous amener vraiment à réfléchir de façon tordue. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, pourquoi ? Parce que quand on a peur, forcément on est un appât géant pour tous les hameçons de vision du monde qui nous environnent et qui nous proposent des solutions pour nous calmer, pour nous rassurer. Ah, je suis prêt à vous rassurer, allez, venez voter telle partie, là on sera fort. Ou bien, ouais non, il faut vraiment que tu aies beaucoup plus d'argent, ça ne te suffit pas ton million là, il faut que tu en aies deux. Puis quand on aura deux, on va te dire, une petite voix qui dira « Non, mais il faut que tu en aies quatre. » Après, ça ira mieux. Tu seras en sécurité. Et puis, et puis finalement, cette crainte de la mort sociale, de la mort économique, nous va finalement diriger toute notre dynamique, toute notre pensée, tout notre élan de vie à essayer de combler toutes ces insécurités, toutes ces craintes. Et c'est pour ça que Dieu, meilleur moyen pour régler ça, mais meurt. Meurs, mais en Jésus. Donne, offre ta vie. Ne cherche plus à survivre par tes propres forces et par tes propres moyens parce que Dieu est capable de te garder mieux que toi. Parce qu'il est plus puissant que toi. Amen. Et je peux vous en dire un rayon là-dessus, parce qu'en mission, je peux vous dire que parfois, on est passé à deux doigts. Hein. Et c'est vrai que des fois, on meurt. Ben oui, on meurt. Mais on mourra quand Dieu aura décidé. Amen. Ça ne veut pas dire que je ne mourrai pas d'un accident ou j'en sais rien, mais je sais que je partirai quand Dieu aura décidé. Amen. Et je crois que... Alors c'est vrai, et après on doit croire aussi que Dieu nous donnera la mesure de grâce nécessaire pour ceux qui nous entourent et pour tout, pour aller de l'avant. C'est clair, c'est dur, c'est douloureux, ça fait souffrir, mais c'est la parole. Acceptons de remettre nos vies. Abandonnez vos vies entre les mains de Dieu. Et là, vous libérez le pouvoir de l'Esprit dans vos vies, pour vous renouveler dans votre intelligence, Romains 2, afin que vous soyez renouvelés dans votre intelligence, afin que votre intelligence puisse maintenant se coller à la pensée de Dieu, pour bâtir, pour construire dans la dynamique du royaume. Et enfin, bien sûr, pour cela encore, pour l'Esprit Saint au milieu de nous, il faut entrer dans l'intimité dont je viens de parler tout à l'heure, qui est offerte par le Père. C'est pour ça que Paul, tout le temps, va dire « Entretenez-vous par des hymnes et des cantiques, chantez, louez Dieu, allez-y, ouvrez les yeux de vos cœurs !» Afin que vous connaissiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quel est votre héritage au milieu des saints, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Ouvrez les yeux. Et il est tout le temps en train de nous dire, mais il faut s'entretenir là-dedans. Parce que c'est vrai, quand est-ce que... Ou bien, c'est quoi ce passage Colossiens 2 qui dit « Recherchez les choses d'en haut ». Quand est-ce que je recherche les choses d'en haut? Mais quand je loue. Et tout à l'heure, on va passer un moment pour louer. Amen. On va ouvrir tout grand les yeux de nos cœurs. On va ouvrir tout grand les oreilles de nos... Ben, est-ce que nos cœurs ont des oreilles? Oui. Et... Voilà, parce qu'on veut s'imprégner de la réalité de sa majesté, de sa souveraineté, de sa grandeur. Amen. Et on veut être des éponges. On veut être des éponges et se remplir de cette réalité qui dépasse la réalité horizontale de ce qu'on peut voir, mais qui est une réalité qui ne périra jamais. Amen. Mais en plus, avec le Saint-Esprit, c'est qu'il y a encore plus. Et ouais. Parce que non seulement le Saint-Esprit, c'est ça la signification, le miracle de la Pentecôte, c'est que non seulement le Saint-Esprit vient en nous individuellement, on fait ce travail pour travailler dans nos vies, mais encore, il y a ce projet maintenant communautaire que le Saint-Esprit veut avoir au travers de son Église. Et Jésus, d'ailleurs, il l'avait dit déjà dans Jean 16, parce qu'il avait préparé ses disciples à ce qui allait se passer. Il dit « Tout ce que le Père possède m'appartient et je vous le donne. » C'est-à-dire tout ce qui appartient au Père appartient à Jésus et tout ce qui est à Jésus, il nous le distribue. C'est la bonne nouvelle du royaume. Il est là par son esprit au milieu de nous et il continue de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et j'aime, je sais qu'elle est longue, mais je trouve que Éphésiens 1 explique tellement de choses. Je vais essayer d'aller vite. Pas trop, dans les moments où il faut bien écouter, j'irai un peu plus lentement. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui à Éphèse appartiennent à Dieu et croient en Jésus-Christ. Verset 4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a aussi destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour qu'on comprenne le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Et selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Verset 13, et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est en Christ que vous avez cru et vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Et c'est cet esprit qui constitue l'acompte de votre héritage. Ainsi, tout a abouti à célébrer sa gloire. Et c'est pour cette raison, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet, quand je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, dans la connaissance, dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant dans des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Amen. Et c'est ça, la deuxième bonne nouvelle de l'esprit répandu au milieu de son peuple, c'est qu'il est là aussi pour un projet communautaire, d'unité, un projet pour faire corps. Et vous savez que souvent les images que la Bible utilise pour essayer de représenter l'Église, vous avez plusieurs images. Il y a l'image de l'épouse, il y a l'image de l'Église-temple, mais vous avez l'image aussi de l'Église-corps. Corps. Corps. Et alors justement, l'esprit répandu est cette réponse du fameux Jean 17, hein, la prière sacerdotale, où Jésus dit « afin qu'il soit un comme nous sommes un », où il est en train de demander au Père « mais voilà, il faut que tu répandes justement cette communion, cette qualité de communion que j'ai avec toi, eh bien je la veux aussi pour eux. Je la veux pour tous ceux qui ont décidé de croire à un projet de communion, une grâce qu'il veut nous donner. » Et là, c'est extraordinaire, parce que l'esprit qui est répandu dans les actes des apôtres, c'est non seulement cette réponse à cette prière, mais c'est carrément une incarnation qui est rendue possible du Christ dans chaque vie qui fait alliance avec lui. Une incarnation rendue possible. Et alors chaque individu qui par sa conversion est dans l'alliance avec Dieu va construire pour Dieu quelque chose qui le dépasse, qui se limite pas simplement à sa propre vie, mais qui le dépasse complètement. Et ça, c'est passionnant. Et dans ce projet qui le dépasse, Dieu a prévu un corps, le corps de Christ, l'Église, dont Jésus est la tête. Et le Père, c'est le cœur. D'ailleurs, le cœur, symbole du cœur, c'est l'amour. C'est l'amour du Père qui alimente tout ce corps. Qui alimente tout ce corps. Et la tête a un fin que la tête puisse diriger. Mais la tête, elle a besoin encore de quoi pour diriger son corps? Elle a besoin du système nerveux. Elle a besoin des nerfs. Et pour moi, quelque part, le Saint-Esprit, ben, c'est ça. C'est tout le système nerveux. Et si vous regardez d'ailleurs, là où, dans le corps humain, j'étais un prof de bio avant... Et si vous regardez comment le corps humain fonctionne, le corps humain fonctionne entre justement le cerveau, le cœur et le système nerveux, et ben tout est réuni dans un endroit qui est crucial, c'est au niveau de la colonne vertébrale. C'est là qu'il y a, bon alors bien sûr le cerveau est alimenté par le sang, mais pour le reste du corps, tout passe par cette colonne vertébrale qui alimente de l'amour du Père et qui rend possible maintenant la conduite de la tête sur l'ensemble du corps. Mais avec un système qui a deux courants, parce que vous avez les nerfs moteurs qui permettent de faire bouger le corps, d'agir sur les muscles, mais aussi les nerfs sensitifs. Et parfois, on appelle ça même les nerfs mixtes, hein, puisqu'ils sont à la fois capables d'envoyer des ordres moteurs et à la fois de recevoir des stimuli. Et c'est ça, le Saint-Esprit au milieu de nous, qui rend possible la direction de Jésus-Christ qui est la tête. Et c'est ça la solidité du corps. Et c'est ça qui rend possible son mouvement, sa cohérence, son fonctionnement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé à appeler la secte du Nazaréen les chrétiens. Les petits Christ. Parce que ça se reproduisait comme la chienlit. Parce que c'est puissant. Parce que c'est puissant, Christ dans la vie de chacun. C'était une abomination pour tous les pouvoirs de la terre à l'époque, hein, dans l'Antiquité, et puis ils disaient, mais qui sont ceux qui bouleversent la terre? Qui sont ceux qui sont en train de mettre le désordre au milieu de nous, le chenil? Eh ben non, c'était voulu de Dieu, rempli par l'Esprit de Dieu, incarnation de Christ, chacun pour sa part, et unis dans la dynamique du royaume. Et souvent, quand on parle de la dynamique du royaume, on oublie que que le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose de statique. J'ai trop souvent l'impression le royaume, on en parle un petit peu comme le bouquet de fleurs séchées qu'on a mis sur la cheminée. Voilà, alors ça, c'est le royaume. Et puis, alors voyez, c'est joli. Il y a des fleurs et des pétales, sont un peu sèches, mais avant, c'était joli. Puis là, ça regarde quand même un certain teint, mais joli quand même un peu. Et puis finalement, non, parce que au commencement, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et nous, en français, on dit « et avec Dieu », on se dit « ben, il est posé à côté de Dieu ». Et en fait, non, le terme en grec, c'est « prostonteon », il y a une dimension dynamique. La parole était avec Dieu, c'est la parole était en mouvement avec Dieu. La parole était dans une dynamique de mouvement avec Dieu. Et Dieu veut nous installer dans cette même dynamique par son esprit, au niveau communautaire. Amen. C'est ça, c'est le merveilleux projet de la Pentecôte. Christ et sa parole est en mouvement, et l'Esprit, au travers de la Pentecôte, veut mettre de la dynamite afin que le corps soit en mouvement et soit une réponse et un reflet de Dieu pour notre génération. Amen. Et pour les générations à venir, on a tellement besoin aussi que nos enfants, et on veut prier pour le culte des enfants en bas, pour qu'eux aussi puissent être remplis de tous ces bons principes de sa parole. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Que Dieu nous bénisse. L'effusion de l'esprit. Souvent, on a juste une petite dernière petite chose. Mais c'est vrai que souvent, on parle de la Pentecôte, et puis on pense au don de l'esprit, et puis on a parfois un discours un peu clivé par rapport à ça. Et moi, j'aimerais vous dire que finalement, c'est vrai, l'esprit, il nous fait des cadeaux pour que justement cette dynamique du corps puisse être pleinement efficace au milieu de ce monde qui cherche des réponses. Et parfois, c'est vrai que les dons, on en parle beaucoup, et puis on peut donner son avis, mais l'important, c'est pas tellement qu'on en parle, c'est qu'on les vive. C'est qu'on puisse vraiment les expérimenter, qu'on puisse les vivre. Parce que parfois, j'ai l'impression que les dons, parfois, c'est un petit peu une belle caisse à outils. Et puis, de temps en temps, même, on l'ouvre. Vous avez vu, il y a des beaux outils. Hein. Puis, on les brique toutes les semaines. Ah, ils sont brillants. Pour être brillants, ils sont brillants. On les utilise jamais. Donc, ils sont... Mais la vocation, c'est pas justement... Et parfois, j'ai l'impression qu'on a une boîte à outils, mais qu'on la garde un petit peu trop propre, quoi. C'est vrai. Mais je crois que, tout simplement, accueillons toutes les dimensions d'aide que Dieu veut nous donner pour tout simplement vivre cette dynamique du royaume. Et on le voit, on l'expérimente, chacun dans nos vies, de façon parfois inconsciente même, parfois visible, mais Dieu utilise, il répand ses dons au milieu de nous pour pouvoir nous permettre d'être témoins, déjà les uns vis-à-vis des autres et vis-à-vis de ce monde qui nous entoure. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Aïe, 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 Seigneur. C'est tellement bon, Seigneur, de demeurer en toi, de vivre en toi. Et non seulement de vivre en toi, chacun pour notre part, mais aussi de savoir que tu nous fais entrer dans un projet qui nous dépasse. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à vivre cette bonne nouvelle comme simplement la bonne nouvelle de notre salut. Mais Seigneur, c'est plus que ça. Tu veux nous faire entrer dans cette bonne nouvelle du royaume, du règne du roi rendu possible par chacun de tes enfants, là où il se trouve. Et Seigneur, nous voulons accueillir cette bonne nouvelle rendue efficace par ton Esprit Saint. On veut se laisser toucher par ton Esprit. On veut se laisser toucher, et devenir véritablement ce corps en mouvement, non pas centré sur lui-même, sur sa propre survie, mais centré sur le monde. Parce que Seigneur, nous sommes ton don pour ce monde. Nous sommes ton cadeau pour ce monde. Et j'aimerais que chacun puisse réaliser, réfléchir, méditer. Est-ce que je me considère comme un cadeau pour ce monde? Parfois, on peut se dire carrément le contraire, hein. Et pourtant, non. Alors moi, je t'invite, et on va chanter, on va louer le Dieu, mais je t'invite vraiment à te positionner par rapport à ça. Est-ce que tu préfères croire ce que Dieu dit de toi? Ou est-ce que tu préfères croire ce que toi, tu penses de toi? Et moi, je te dis une chose, c'est que Dieu dit la vérité. Tu es unique, et son esprit qui est unique veut faire quelque chose d'unique au travers de toi et avec toi. Pour toi, pour ta famille, pour ta communauté, pour ton pays, pour le monde qui t'entoure. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.